On a tous vécu un peu la même chose, la double culture, l'éducation en France par des parents asiatiques.
En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases.
C'est à travers l'expérience des gens qu'on apprend beaucoup, les uns envers les autres.
Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiatique.
Se retrouver autour d'une table, discuter et partager de bons moments.
D'avoir une multiculture, c'est trop bien. D'être multiculturel, d'avoir plein d'origines,
c'est trop cool.
Comment nos origines asiatiques influencent-elles notre construction identitaire? Comment transmettre nos cultures à nos enfants? Quelle place pour les Asiatiques dans les médias ou les arts? Comment lutter contre les stéréotypes? Comment valoriser les identités et cultures asiatiques? En tant qu'Asiatique vivant en Occident, ces questions, vous vous les posez peut-être. Moi, en tout cas, je me les pose, parmi beaucoup d'autres. Je suis Mélanie Hong, française d'origine sino-vietnamienne, et vous écoutez Asiatitude. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions personnelles et vos récits de vie intime pour mieux appréhender le rôle de nos cultures dans nos vies. Je vous partage aussi mes conversations avec des artistes, entrepreneurs, experts qui agissent pour une meilleure valorisation des histoires, des talents et des savoir-faire asiatiques. Mon but, planter et arroser des graines d'asianité pour mieux vivre notre multiculturalité. C'est parti ! Je ne sais pas si c'est moi qui ai manqué de curiosité, sûrement peut-être un petit peu, mais à presque 35 ans, je connaissais très mal l'histoire des migrations asiatiques. Jusqu'à très récemment, je ne savais pas grand-chose des raisons de cette présence asiatique en France. Je connaissais pas vraiment les dates, les pays, les statistiques. Pourquoi il y a des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Chinois, des Laotiens et bien d'autres populations asiatiques en France? Depuis combien de temps? Et combien on est? À l'école, l'histoire de la colonisation et des flux migratoires d'Asie en France, on ne l'apprend pas. Ou alors vraiment très peu parce que je ne m'en souviens pas du tout. Pour toutes ces raisons, j'ai été ravie d'apprendre que pour la première fois en France, un musée national consacre une exposition de grande ampleur aux migrations asiatiques. D'ailleurs, en apprenant que c'était la première fois, j'ai trouvé ça assez insensé que ça n'ait pas été fait avant. Je pensais juste que je n'étais pas au courant ou que je ne m'intéressais pas, mais en fait, ça n'existait pas. Du 10 octobre de l'année dernière, 2023, jusqu'au 18 février 2024, le Musée national de l'histoire de l'immigration présente l'exposition « Immigration Est et Sud-Est asiatique depuis 1860 ». J'ai eu la chance de pouvoir la voir en avant-première avec une visite guidée de Constance Rivière, la directrice générale du Palais de la Porte Dorée, et avec Simei Wang, commissaire scientifique de l'exposition et chercheuse au CNRS. J'y suis retournée plusieurs fois ensuite, avec les membres de l'association Asiatitude Family, et puis aussi avec ma famille. On y a appris beaucoup de choses sur les différentes périodes migratoires. Mais ce que j'ai surtout retenu, c'est cette émotion que j'ai ressentie à voir figurer dans un musée l'histoire de nos familles. De voir des planches de BD, des extraits de films, des créations de copines et copains artistes asiatiques. En fait, voir des objets, des photos, des lieux, que je vois d'habitude uniquement quand je suis en famille, voir tout ça s'afficher dans un musée national, je trouvais ça assez fort. J'en suis ressortie avec un sentiment d'appartenance, cette sensation que notre existence en France était un peu plus reconnue. Alors c'est qu'une exposition, mais je trouve que c'est déjà un premier pas. Cette appartenance à l'histoire de la France, elle s'oppose aux remises en question de celles et ceux qui considèrent qu'on n'aurait pas notre place ici. D'ailleurs, l'exposition consacre à la fin sa dernière partie aux initiatives médiatiques qui œuvrent pour une meilleure représentation des communautés asiatiques en France. Et Asiatitude a l'honneur de faire partie de ces initiatives présentées au musée. Et ça, c'est une grande fierté. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que ce sujet est important et je vous partage ma conversation avec Simei Wang, commissaire de l'exposition.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Simei Wang, sociologue et chercheuse de recherche au CNRS et pour cette exposition, je suis commissaire scientifique.
C'est la première fois que le musée de l'immigration consacre des expositions à l'immigration asiatique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il n'y en a pas eu avant et pourquoi cette fois-ci il y a eu un intérêt pour les populations asiatiques ?
C'est la première fois que le musée aborde l'histoire de ces populations asiatiques en France. Et d'ailleurs, cette exposition est la première exposition qui aborde l'histoire de ces populations asiatiques dans un temps long, parce qu'on commence par 1860, dans un musée national en France. Donc c'est vraiment une grande première. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'avant? Je pense que il y a plusieurs raisons, hein, et donc on peut s'interroger sur la méconnaissance, hein, des Français et des Françaises, hein, sur les populations d'origine asiatique en France. Déjà, à commencer par l'éducation. On peut se demander, dans notre manuel d'histoire, qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce qu'on raconte l'histoire des travailleurs et combattants asiatiques venant pour les deux guerres mondiales? On peut se demander, est-ce qu'on a apporté aussi, pour commencer, la colonisation française en Indochine. On peut également se demander, est-ce que l'histoire des réfugiés sud-est asiatiques ont été suffisamment racontées, à la fois dans les cours, à l'école, mais aussi à travers des productions culturelles, à travers des films, à travers des livres. Ça fleurisse. Il y a quand même un fleurissement depuis, je dirais, 20 ans. Déjà, c'est un phénomène qu'en tant que chercheur scientifique que j'ai pu observer. Avant, il y avait eu d'autres expositions, hein, mais qui parlent spécifiquement, par exemple, à Connaît-les-Gorges. Il y a des expositions qui ont eu lieu pour raconter l'accueil de ces réfugiés dits Boat People dans la région. Il y a un musée à Montargis qui raconte justement, qui mémorise, hein, ce mouvement travail-étude, mais c'était assez dispersé et surtout régional, hein, et on raconte un type de migrants, de migration et ou de mobilité, et on prend pas cette partie de l'Asie dans son ensemble, et surtout on commence pas par 1860.
Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des choses qui fleurissent. Et pourquoi donc en 2023 on crée une exposition là de beaucoup plus large, niveau national, et qui revient de 1860 à aujourd'hui?
J'ai reçu l'invitation du musée, hein, pour travailler sur cette exposition, et je ne peux pas en fait répondre à cette question au nom de la direction de l'établissement, mais il me semble qu'en fait je peux parler de mon point de vue, hein, c'est que là j'ai reçu cette sollicitation en 2020, donc peu après la pandémie de Covid. Je pense que c'est une triste réalité. Finalement, la Covid, on a énormément souffert, déjà sur le plan humain, mais aussi à cela s'ajoute, pour les personnes d'origine asiatique, le racisme anti-asiatique, c'était une période très dure pour nous. Mais cette pandémie a quand même éveillé une conscience, déjà du racisme anti-asiatique pour les personnes concernées comme moi, mais aussi ça a sensibilisé en fait la population française, y compris surtout les instances publiques et puis le pouvoir public, hein, français en France, de se dire qu'est-ce qu'on connaît de cette population. Et qu'est-ce qu'on connaît de ces communautés asiatiques? Donc il a fallu quelque chose pour réparer cette omission collective dans l'histoire des musées français. Il y a eu cette volonté de mieux connaître. Et d'ailleurs, je reviens au résultat d'un sondage qu'on a lancé auprès de 1000 Français et Françaises via une entreprise de sondage. Et donc, c'est par échantillon, donc c'est complètement représentatif, hein, de la population française. Et on a posé 5 questions, dont 3 premières questions de connaissance. Le résultat était assez stupéfiant, pour moi en tout cas. Sur ces 1000 personnes, 9 personnes ont répondu correctement aux 3 questions successives. C'est-à-dire qu'il y a seulement 9 personnes sur 1000 qui ont répondu correctement à l'ensemble des 3 questions de connaissance.
Ce qui est très très peu. 0,9% en fait.
Oui. Ouais.
Ça démontre un peu la méconnaissance des Français des populations asiatiques.
Exact.
Et comme tu disais, ça montre aussi qu'il y avait ce besoin de la population française de connaître, mais qu'elle ne le savait pas avant le Covid. Est-ce que tu peux expliquer comment a été construite l'exposition et quelles sont les différentes sections qui sont abordées ?
Alors, la conception scientifique de l'exposition a pris beaucoup de temps. Ça fait plus de 2 ans, même 3 ans qu'on travaille là-dessus. Et donc, nous avons décidé de nous focaliser sur cette période charnière, cette année charnière de 1960. Il est important de garder en tête que, d'une part, en 1860, c'est la fin de la deuxième guerre de l'opium. Et donc, la France, à côté de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, a participé à contraindre la Chine à souffrir et en même temps, le Japon est contraint de souffrir aussi au commerce suite à la signature des traités dits INECO. Ça, c'est pour la Chine et le Japon. Et d'autre part, comme vous le savez, 1862, c'est le début de la colonisation française en Cochinchine. Et donc, cette période, pour nous, elle est très importante parce que ça marque en fait un profond bouleversement de rapport de force entre l'Occident et l'Orient parce que la Chine et le Japon étaient fermés, la Chine s'autoproclamait l'empire du milieu et donc il y a eu une sorte de mépris des Asiatiques envers le reste du monde. Mais tout a changé à partir de 1860. Et tirer le fil chronologique à la période contemporaine nous a permis justement d'aborder la question des descendants, d'aborder la question des transmissions intergénérationnelles, de parler des sujets d'actualité comme Covid. Et donc on a décidé que ça soit depuis 1860. Et puis on a aussi décidé que ça soit spécifique à cette partie d'Asie, hein, donc à savoir l'Asie de l'Est et du Sud-Est, hein, pour trois principales raisons. La première, c'est les mobilités très anciennes entre les différents pays asiatiques de cette partie d'Asie, et notamment il y a beaucoup de personnes qui vivent encore aujourd'hui outre-mer, donc en tout cas qui ont quitté l'Asie, qui se présentaient comme par exemple des sino-cambodgiens, sino-vietnamiens, sino-laotiens. Et donc juste pour vous donner un chiffre, ces mobilités intra-régionales, notamment de la Chine vers ses pays voisins, remontent à il y a 2000 ans. Donc c'est ultra ancien. Et déjà vers la deuxième moitié du 19e siècle, on comptait déjà 1,5 million de Chinois outre-mer et la grande majorité habitait justement en Asie du Sud-Est. Et donc pour nous, il serait une erreur de ne pas traiter les populations immigrées en provenance de la Chine aux côtés des migrations sud-est asiatiques justement. Et deuxième raison pour laquelle on les a traités dans son ensemble, ça renvoie aussi à l'histoire des civilisations parce que, comme vous le savez, cette partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est était sur un temps long, hein, sous l'influence de la Chine ancienne. Et donc, c'est pourquoi, en fait, il y a certaines coutumes, certaines pratiques culturelles et religieuses, etc., partagent une racine commune. Et sur le sol français, c'est pareil. On retrouve, par exemple, la fête du Nouvel An lunaire, non seulement chez les personnes d'origine chinoise, mais aussi chez les personnes d'origine vietnamienne et des personnes d'origine coréenne. Et donc, pour nous, c'était important aussi de les prendre dans son ensemble. Et troisième raison qui est très importante est liée au stéréotype relativement homogène porté par ces personnes d'origine asiatique. Et cela renvoie à ce processus relativement similaire de racialisation vécu par les personnes d'origine est et sud-est asiatique en France. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas inclure l'Asie centrale, l'Asie du Nord et l'Asie du Sud.
Et de 1860 jusqu'à aujourd'hui, comment elles sont construites ces délimitations de sections ?
On a décidé, comme la question de racialisation est tellement importante et aussi avec cet objectif de déconstruire justement des stéréotypes, de déconstruire des clichés et des préjugés, on a décidé de dédier en fait une section entière à ces questions-là. Ça, c'est notre cinquième section et qui est transversale, qui est thématique, qui traite de ces questions justement de traitement différencié et des luttes. Hein. Et d'ailleurs, Asiatitude y est présente. Et les quatre premières sections sont des sections chronologiques. Donc on commence par la première section qui couvre du 1860 à la veille de la Première Guerre mondiale. Et là, dans cette section, on voit surtout en fait des migrations d'élite, hein, notamment des ambassades, délégations asiatiques venant en France. On voit également plusieurs expositions universelles auxquelles ont participé les différents pays asiatiques et on voit également l'engagisme, donc il y a un régime de travail contraint, même si sur le papier c'est écrit libre, hein, mais en réalité ce sont des travailleurs qui sont envoyés dans l'empire colonial, dans l'empire impérial, aux Outre-mer notamment, par la France. Et puis parmi ces gens engagés, il y a principalement des engagés indiens, mais aussi chinois et indochinois. Et la deuxième section couvre justement les deux guerres mondiales et aussi l'entre-deux-guerres. Et là-dedans, on aborde justement des travailleurs et combattants chinois, indo-chinois. On aborde également la vie quotidienne de l'entre-deux-guerres. Donc là, on peut voir certains objets et des témoignages particuliers qui ont, par exemple, des descendants, des anciens restaurateurs qui ont proposé des archives de famille, des photos, etc. Et puis, l'entre-deux-guerres, on voit aussi l'arrivée des étudiants et aussi des artistes asiatiques qui ont vécu en France. Et la troisième section démarre justement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1990. Et dans cette section, on apporte plusieurs sujets phares. Et donc, il y a, dans un premier temps, on va parler de rapatriement, donc l'accueil des rapatriés en France métropolitaine. Et ensuite, on va parler justement de l'accueil des réfugiés sud-est asiatiques. Et dans un langage médiatique de l'époque, on les nommait de boat people. Et c'est vraiment l'arrivée de ces réfugiés sud-est asiatique est numériquement très important. Et d'ailleurs, dans notre exposition, à la fois, on parle de la réception, traitement médiatique de ces réfugiés sud-est asiatiques et en même temps, on propose une cartographie qui met en scène, qui illustre différents centres d'hébergement provisoire où ont été logés les réfugiés sud-est asiatiques en arrivant dans un premier temps en France. Par exemple, dans le centre de Cognan-les-Gorges, là, on voit qu'il y a une famille, notamment, qui a proposé des photographies de l'époque et aussi y compris les dessins. Il y a un dessin d'enfant, je ne sais pas si tu l'as vu, dessiné par un enfant qui est venu avec ses parents réfugiés sud-est asiatiques, qui rappelle justement le paysage de son pays d'origine. Et à côté, on a un témoignage filmé d'une personne qui a grandi dans ce centre. Et le dernier sujet phare traité dans la troisième partie s'intéresse aux implantations des personnes d'origine asiatique dans différents territoires. Et donc là, on met en avant le 13e arrondissement, qui est le plus grand, on va dire, quartier asiatique d'Europe, hein, d'un point de vue du nombre. Mais en même temps, on parle aussi d'autres lieux et d'autres quartiers, comme le quartier de l'Opéra pour les personnes d'origine japonaise et coréenne. On évoque également, pour les personnes d'origine chinoise, d'autres quartiers. Déjà, les arts et métiers ont déjà été apportés dès la deuxième section, mais en troisième section, on parle aussi, par exemple, de Belleville. On essaie aussi de mettre le projecteur sur certaines encore minorités ethniques au sein des personnes d'origine asiatique, puisque on a plusieurs témoignages de l'ethnie, des personnes issues de l'ethnie Hmong qui avaient fui justement la Laos pendant la même période, donc qui sont venues aussi en tant réfugiés sud-est asiatiques. Et certaines personnes de l'ethnie de Hmong ont été installées à Nîmes ou à Géant. Mais d'autres, ça c'est peut-être moins connu par la population française, d'autres ont été envoyés en Guyane. Et donc là, par exemple, dans notre exposition, on met en lumière deux broderies brodées par des femmes Hmong. Effectivement, elles ont une tradition de broder, mais c'était pas forcément avec le style figuratif, hein, comme ce qu'on peut voir dans le cadre de l'exposition. Ce qui est très intéressant avec ces deux œuvres, c'est à travers les broderies, on peut lire leur parcours migratoire, parce que ces femmes Hmong ont commencé à tricoter, à broder à partir de leur exil. Elles se disaient que j'ai besoin de mémoriser le parcours migratoire, et donc elles ont d'abord commencé à dessiner, ensuite broder pour matérialiser ces mémoires. Et donc ensuite, je vais accélérer un petit peu pour la quatrième section, donc la dernière section chronologique de l'exposition. On commence par 1990 et jusqu'à nos jours. Et là-dedans, il y a deux principaux sous-ensembles. Le premier aborde la question de la diversité des routes migratoires. Et donc là-dedans, on parle de différents types de migration, notamment impulsées par la libéralisation économique dans le monde. Et elle arrivait beaucoup de migrants économiques non qualifiés, y compris les personnes sans papier. Mais on parle également de la mobilité étudiante, on parle également du tourisme, des flux touristiques, on parle également des commerçants de l'import-export, des grossistes chinois. Et puis, le deuxième sous-ensemble de la quatrième section est dédié aux descendants et aussi à l'ensemble des pratiques et des transmissions intergénérationnelles. Et on met en scène justement notamment des pratiques religieuses, des festivités culturelles. Et en même temps, pour les descendants, on revient à ce sujet un peu douloureux, mais qui est universel, qui est très important à porter. C'est la question de quête de soi, quête de sens par rapport à son existence en France en tant que descendant de migrants asiatiques qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, hein, pour certains parents primo-arrivants. Donc, il y a eu plusieurs créations artistiques, hein, qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait justement du fait que depuis 2000, il y a quand même eu plusieurs films, plusieurs livres, plusieurs bandes dessinées, etc., qui ont été justement proposés par souvent des descendants et descendantes, hein, de migrants qui s'engagent dans ce travail de recherche de la mémoire collective, hein, de la compréhension des histoires familiales de leurs parents, parce que pour beaucoup de familles asiatiques, ces histoires de pourquoi on a fui notre pays d'origine, pourquoi on l'a quitté, pourquoi on l'a quitté dans des conditions tellement extrêmement difficiles et précaires, ne sont pas toujours racontées par les parents aux enfants, parce que d'une part, peut-être les parents pensent que ça ne vaudra pas le coup de temps. C'était tellement banal, eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se mettre en avant. Mais aussi parce que certains parents, ils voulaient protéger les enfants, parce que ce sont des mémoires, des souvenirs tellement douloureux. Donc il y a eu aussi cette volonté de non-transmission, et d'ailleurs dans notre catalogue on en parle aussi, des choses, par exemple on a des témoignages très intimes, etc., qu'on peut pas à travers les objets ou mettre en œuvre, mettre dans le cadre de l'exposition, mais par écrit, par la voix, c'est parfois plus facile. Et donc ça, c'est la quatrième section. Et puis cinquième section, comme je vous ai dit, c'est transversal. Là-dedans, on parle à la fois de... Il y a quatre sous-ensembles. Le premier sous-ensemble de la cinquième section parle justement de la permanence des stéréotypes, hein, parce que même si l'exposition... En tout cas, on parle beaucoup plus de personnes d'origine asiatique après Covid, mais il faudrait garder en tête que le racisme anti-asiatique et les préjugés, les stéréotypes portés par les personnes d'origine asiatique ont commencé très très tôt, donc dès la fin du 19e siècle. Sur certains titres des journaux et aussi des unes, on voit déjà le terme de péril jaune, invasion jaune, etc. Et ça n'a pas cessé d'évoluer dans le temps. Et ça, c'est le premier sous-ensemble. Deuxième sous-ensemble, on s'intéresse aux actions collectives menées par les primo-arrivants et les descendants asiatiques, hein, sur le sol français. Donc là, on voit plusieurs manifestations, on voit aussi la participation de certaines personnes d'origine asiatique dans des mouvements de lutte plus globale. Et puis, troisième sous-ensemble, c'est là où on retrouve Asiatitude. Il s'agit en fait des initiatives de mettre en scène, des initiatives florissantes de promotion d'une meilleure ou d'une plus juste représentation des Asiatiques en France. Et on termine cette section, et aussi d'ailleurs l'exposition, par un dernier sous-ensemble qui consiste cinq écrans sur lesquels on projette des témoignages des personnes engagées. Donc on leur donne la parole. Il y a aussi des personnalités publiques, en tout cas, ils témoignent sur l'écran en fait leur parcours à la fois migratoire, mais aussi surtout comment ils, elles, se sont engagées dans cette lutte contre le racisme et aussi contre la discrimination et dans cette entreprise de promotion de représentation des Asiatiques en France.
J'aimerais bien inciter en fait le maximum de personnes à venir voir l'exposition, parce que nous, en tant qu'Asiatiques en France, je vais donner mon ressenti moi personnel. Je trouve qu'elle est indispensable en fait à notre compréhension identitaire. Les deux premières sections, pour moi, elles sont historiques, mais du coup elles comblent un manque qu'on a dans nos livres d'histoire, parce qu'on n'a pas grandi avec ces explications. La troisième section sur les boat people et les immigrants de la génération de nos parents, moi je m'y attendais pas du tout, mais quand je suis arrivée dans cette section, elle m'a beaucoup émue. En fait, c'est la première fois que je voyais dans un musée ou même dans un livre d'histoire l'histoire de mes parents. Donc je pense que si moi ça m'émeut, ça va peut-être vous émouvoir aussi.
Je pense que cette partie-là vous parlera particulièrement parce que c'est notre histoire, en fait, notre histoire à nous. La quatrième section aussi, ça nous donne des informations historiques sur les migrations, les différents parcours migratoires, etc. Ça, je trouve que pour la culture générale, que ce soit pour des non-asiatiques et pour des asiatiques, c'est hyper intéressant. Et la dernière section, évidemment, ben, ça nous intéresse particulièrement puisque c'est nous qui prenons la parole. On disait qu'Asiatitude était représentée, mais il y a également Slash et Jeanne, il y a également Koi Magazine, il y a Grace. C'est une grande fierté en fait de voir ces initiatives dans un musée, parce que c'est reconnu institutionnellement. Et je trouve que ça nous apporte aussi énormément, voilà, par exemple dans toute la partie de production culturelle de la deuxième génération, de voir une statue de déesse Guanyin qui est là, qui normalement est que dans la chambre ou dans l'hôtel des ancêtres à la maison. C'est quelque chose d'assez puissant, je trouve, comme sentiment. C'est comme la première fois qu'on voit un Asiatique au cinéma. Voir des choses qui nous sont familières mais qu'on n'a jamais vues ailleurs dans un musée, ça nous fait un peu plus appartenir à la France, étrangement. Merci pour cette exposition et je vous incite tous à aller la voir.
Effectivement, je voulais remercier en fait les membres du conseil scientifique. C'est vrai que c'est notamment ma co-commissaire Émilie Canton et moi-même, donc commissaire scientifique, on a été pas mal mis en avant, mais je voulais aussi en profiter pour remercier les 5 membres du conseil scientifique. On a décidé de justement de constituer un conseil scientifique pour avoir des apports disciplinaires différents parce que ils et elles sont 2 historiens, 2 géographes et une chercheuse en sciences politiques. Et donc, c'est vrai que on a chacun et chacune notre expertise. Et donc, il y en a certains qui sont davantage vraiment spécialistes de la première section, d'autres deuxième, etc. Et donc, je pense qu'il est important aussi de, peut-être aussi de rappeler que même au sein du champ scientifique, il y a de plus en plus de chercheurs et chercheuses qui s'intéressent aussi aux migrations asiatiques et nous sommes de plus en plus nombreux. Et puis, je trouve qu'on apporte aussi un regard croisé dans le sens où, en fait, à la fois, on est en quelque sorte insider parce que c'est notre histoire, on le connaît, on l'a effectué peut-être le parcours nous-mêmes ou c'est l'histoire de notre famille. En même temps, on a ce regard aussi outsider, c'est-à-dire que moi-même, en tant que chercheur sociologue, sans cesse, j'essaye d'objectiver mon rapport à la population, aux populations que j'étudie aussi et aux objets de recherche que j'entreprends. Donc voilà, je voulais terminer sur ce double regard d'insider et outsider.
Et c'est très intéressant. Je trouve que cette exposition me permet, au-delà de l'intuition d'une personne qui le vit en termes d'expérience personnelle, d'avoir un regard un peu plus large. Ça nous permet de replacer en fait vraiment nos parcours dans l'histoire, notre petite histoire dans la grande histoire.
Tu as dit relier la grande histoire et les petites histoires. Et justement, ça me tient à cœur de pouvoir aussi, dans le cadre de cette exposition, proposer plusieurs objets et archives que nous avons pu recevoir. Et donc, si vous venez regarder cette exposition, vous allez voir qu'il y a des collections privées. Et donc, effectivement, on a reçu une 40aine de propositions. Donc, les citoyens ordinaires qui ont proposé des objets, des archives, des photos de famille, mais aussi des dessins, des choses comme ça. Et on en a sélectionné une 10aine, 20aine. Et pour nous, c'est très important de les voir à côté des très beaux objets, par exemple des cadeaux diplomatiques offerts par le roi du Siam à Napoléon III. Donc on a des objets vraiment extraordinaires pour la première section. Mais pour moi, les témoignages venant des citoyens ordinaires sont autant importants que ces objets diplomatiques. Donc pour nous, c'est important de pouvoir raconter cette histoire des immigrations est et sud-est asiatiques en France, à la fois par le haut et par le bas. Et donc je pense que l'ensemble des personnes qui écoutent ce podcast, vous pouvez être fiers d'être ici, d'être en France, et vous avez participé, vos familles ont participé aussi à l'histoire à part entière de la France.
Merci beaucoup, Simeng.
Merci d'avoir écouté Simeng et moi jusque-là. Comme vous l'avez entendu, j'étais un peu émue à l'issue de ma première visite et je ne m'y attendais pas du tout. Comme quoi, tout est possible au musée, même pleurer devant une photo de personnes âgées. En tout cas, j'espère que cet échange vous aura permis d'apprendre des pans d'histoire que vous ignoriez, que ça vous donnera aussi envie d'en savoir plus sur cette grande histoire des migrations asiatiques. Et si vous écoutez cet épisode après la fin de l'exposition, vous pouvez vous rattraper en achetant le catalogue de l'expo qui en vente un peu partout, en ligne et au musée. En complément, je vous recommande aussi d'écouter le podcast Quartier d'Asie, que j'ai produit avec un groupe de chercheuses du CNRS, de Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux et de l'Université de Cergy, et qui raconte l'installation et l'engagement des Asiatiques en Île-de-France. Et si vous avez d'autres suggestions de lecture, de films, tout objet culturel sur le sujet des migrations asiatiques, n'hésitez pas à m'écrire, comme ça je les relayerai sur le site d'Asiatitude. Et voilà, cet épisode est fini. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour être informé du prochain épisode. Et moi, je vous dis à très vite.